Philippe Vandel est de retour avec sa série des Pourquoi pour répondre à toutes vos questions sur les Jeux Olympiques.
Il y en a tellement. Pourquoi un joueur de foot ne peut pas retirer son maillot pour célébrer un but? Pourquoi l'équitation est-elle la seule épreuve mixte des Jeux Olympiques? Et d'ailleurs, pourquoi certains sports sont-ils olympiques et pas d'autres? Des questions évidentes, mais des réponses étonnantes. Plongez avec moi dans l'univers fascinant des Jeux Olympiques et du sport.
Les Pourquoi des Jeux Olympiques, un livre surprenant de Philippe Vandel, aux éditions Kerrow.
Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, les grandes gueules du sport, votre émission en direct tous les samedis et dimanches de 9h à midi. On est très très heureux de vous retrouver, les GG. Vous le savez, c'est l'émission de sport que vous pouvez écouter en voiture, en pyjama, en podcast ou les trois en même temps. Alors nous sommes à la veille de la Coupe du Monde RMC, radio officielle de cette Coupe du Monde de la FIFA 2022. 300 heures de direct dédiées au Mondial, tous les matchs commentés à partir de demain. RMC bouleverse sa grille pour couvrir ce Mondial avec un dispositif exceptionnel, un studio délocalisé au cœur de Doha. RMC vous fera vivre les 64 matchs de la compétition à partir de demain, antenne de 14h à 1h en direct du Qatar avec toutes les stars évidemment de notre antenne, Daniel Riolo, Jérôme Roten, Jean-Louis Tour, bref, ils sont tous là-bas, Gilbert Bribois, j'en oublie évidemment, ne m'en voulez pas. Les copains, vous allez vous régaler pendant un mois à notre écoute. Au sommaire des grandes gueules du sport, dans quelques instants, la une des GG, nous sommes donc à la veille de cette Coupe du Monde et deux des cadres des Bleus, Raphaël Varane, Karim Benzema, sont toujours ménagés, ils sont toujours incertains pour le premier match. Leur gestion peut-elle devenir un boulet? Ce sera notre question. 9h30, la punchline des GG signée Raphaël Nadal. Je ne sais pas si je vais atteindre ce niveau à nouveau, mais je vais mourir pour ça. Est-ce que ça sent la fin du GOAT espagnol? Et puis 10h, nous passerons la seconde autour du cas Cristiano Ronaldo qui a sorti la sulfateuse cette semaine. J'imagine que vous avez vu quelques extraits. Une interview en grande pompe et en grande gueule, ça tombe bien. La star portugaise vient-elle de se faire harakiri?
Il ne me respecte pas comme je le mérite. S'il a vraiment besoin de moi, je l'aiderai, mais je me suis senti provoqué. C'est pour ça que je l'ai dit. Je n'ai pas de respect pour lui, parce qu'il n'en a pas pour moi.
Voilà, ça c'était le petit coup de rap à son entraîneur. Et évidemment, on ouvre le dossier Ronaldo et vous entendrez toutes les meilleures déclarations du Portugais dans cette émission. Les grandes gueules du sport ce matin, une grande gueule qui, comme le Qatar, raffole du désert. Il en a même pris trois fois à la cantine. David Douillet, salut David.
Bonjour.
Il n'a pas aimé.
Il est fâché.
Non, pas vraiment, non.
T'as pas digéré la vanne ou le désert?
J'en ai marre de tes vannes sur mon poids, mon physique. Essaye de trouver d'autres angles. Et tu sais si je suis volumineux quand même.
Mais oui, c'est vrai.
Je ferai
sur la fiscalité et les pièces jaunes demain.
Non.
On reste
là,
sur le
poids. J'en peux plus d'envoyer. D'envoyer les. Le rapport de la Cour des comptes pour faire taire toutes ces conneries.
En tout cas, je suis très heureux de te retrouver, mon cher David. Moi une aussi. Grande gueule qui, comme le Qatar, ne fait pas l'unanimité. Soit on la déteste, soit on la déteste. Marion Bartoli, salut Marion.
Tu as raison, je suis détestée. Surtout par Verstappen. Mais ça, c'est pas grave, ça je m'en fous complètement.
Tu lui rends bien et on en parlera à partir de 11h. Et je sais dans quel camp tu vas te retrouver, Pérez ou Verstappen. Ce sera notre débat d'ailleurs. Tu me mets le pied à l'étrier. Vous pouvez aller sur le compte Twitter des grandes gueules du sport pour déjà voter pour ce bras de fer. Une grande gueule qui, comme le Qatar, est très proche d'Emmanuel Macron. Olivier Giraud, salut Olivier.
Pas de réponse. J'ai rien à dire. Tu sais que t'aurais pu prendre celle de Marion, t'aurais pu me le faire aussi.
Oui, tout est interchangeable. Tu rafles du désert aussi. Tu peux parfois être détesté. Bref, c'est pour ça qu'on vous aime, les copains. Et puis, on va accueillir un petit nouveau, mes grandes gueules. Alors, vous allez voir, là, je vais être sympa avec lui. Ce sera la seule fois, ok?
Voilà.
Il est prévenu, ce sera la seule fois. Une grande gueule qui, comme le Qatar, sent bon le sable chaud. Renaud Longuèvre. Salut Renaud.
Salut.
Oh là là,
salut.
Salut Renaud.
Mais c'est la seule fois où je suis sympa, ok voilà. Renaud?
Je me baladais par là.
Profite aujourd'hui.
J'ai vu de la lumière, j'ai entendu sa gueulette partout. J'ai vu un grand balèze. ça m'a rappelé quelques années en arrière. Je me suis dit, mais c'est mon David Douillet, ça.
Mais c'est bien parce que, ouais. C'est bien parce que tu connais tout le monde, donc tu es déjà dans la famille, donc c'est parfait. Est-ce qu'on doit t'appeler monsieur le directeur ?
Non.
Le directeur de la haute performance de l'équipe israélienne d'athlétisme, tu es avec nous et évidemment nous aurons besoin notamment de tes lumières pour le premier débat concernant Karim Benzema et Raphaël Varane. Sois le bienvenu dans la famille. En tout
merci,
cas.
Merci.
Tu vas voir, on va se régaler. On va débuter cette émission avec un proverbe français qui dit « La guérison n'est pas si prompt que la blessure ».
La une des grandes gueules du sport.
Ça reste un cas à part parce que c'est un joueur de très haut niveau et qui sait se gérer.
Allez soigner son pied.
Ah oui, il y a le pied aussi, oui.
On sait, c'est deux joueurs très importants pour nous.
Une blessure qui valait $1 million.
J'ai pas de doute, si tout va dans le bon sens, voilà.
Je serais un vrai boulet à traîner.
Je connais quelqu'un qui peut vous soigner. La vie pas loin, allez, poussez-vous.
Il va mieux. Il va vachement mieux.
Façon, j'y crois pas.
Donc, j'espère qu'il sera vraiment opérationnel pour cette Coupe du Monde avec nous.
Qu'est-ce qu'il y a dans cette saloperie ?
Ce sont des pilules, ça vous soignera.
Je pense qu'après, ce sera au niveau de ses sensations personnelles.
Ne lâche pas, champion.
Ceux des 26 qui sont là sont censés pouvoir disputer le premier match.
Quelle humiliation ! Nous sommes humiliés !
Est-ce qu'ils sont capables de le faire, d'être prêts tout de suite ?
Ça fait mal de vivre sans toi.
Eh oui, ça picote un peu. J-1 avant le coup d'envoi de la 22e Coupe du Monde de l'Histoire et J-3 avant le grand début des Bleus. Ce sera mardi soir à 20h face à l'Australie. Deux nuages viennent perturber notre équipe de France dans leur préparation pour ce premier match. Karim Benzema, blessé au quadriceps de la jambe gauche. 26 minutes de temps de jeu dans les jambes depuis un mois. Raphaël Varane, blessé à une cuisse. 0 minute de temps de jeu depuis un mois. Historiquement, chez les Bleus, avant une grande compétition, les courses contre la montre n'ont jamais été très efficaces ni traitées avec une grande sérénité. C'était notamment le cas de Zidane en 2002, Patrick Vieira en 2008 ou encore Franck Ribéry en 2014. Alors la musique qui fout les jetons. Et cette question, mais GG. Leur cas, leur gestion, peut-il devenir un problème ? Oui ou non ? Olivier Giraud.
C'est un problème. Oui.
David Douillet.
C'est déjà un problème.
Marion Bartoli.
Non.
Renaud Longuèvre.
C'est un problème, mais ça peut devenir un cauchemar.
Ok, avant de débattre, on va retrouver l'un de nos envoyés spéciaux auprès des Bleus à Doha. C'est Loïc Braillet. Salut Loïc.
Salut JC, salut les GG.
Alors Loïc, quelles sont les dernières informations concernant Varane et Benzema ?
Alors, elles sont toutes fraîches, elles datent d'hier soir. Raphaël Varane et Karim Benzema se sont échauffés durant une vingtaine de minutes avec le reste du groupe. Un échauffement durant lequel ils ont touché le ballon, jonglerie, passe, frappe, sans pousser, hein, non plus trop loin. Ils ont ensuite rejoint Cyril Moine, le préparateur physique des Bleus, comme hier, pour poursuivre leur montée en puissance physique, pour gagner en rythme. Donc tout ça à l'écart du reste du groupe. Course à haute intensité, exercice d'appui, frappe à nouveau. Aucun des deux n'a écourté la séance. Le staff se tient au protocole établi en fait en début de semaine à Clairefontaine pour ces deux joueurs-là et il ne montre aucun signe de fébrilité, ce staff. L'opposition du soir hier lors de l'entraînement à huis clos avec le 11 de potentiel titulaire le montre. Il reste trois séances maintenant pour voir s'ils peuvent intégrer ce 11-là. Dans le clan Varane, dans son entourage, on se montre assez optimiste. Si tout se passe bien, nous dit-on, sur les sensations qu'il a durant les prochaines séances, il pourrait accrocher une place de titulaire. Côté Benzema, c'est beaucoup plus flou. Il y a moins d'infos qui filtrent, donc le doute est peut-être un peu plus épais. Et lors de l'opposition d'hier soir, dirigée par Deschamps, c'était le premier vrai entraînement, entre guillemets, hein, depuis qu'ils sont au Qatar. Donc ni Varane, ni Benzema ne figuraient donc dans l'équipe des potentiels titulaires. La charnière centrale était composée de Upamecano et Konaté, et Giroud était positionné en pointe dans un schéma en 4-2-3. Preuve que le staff semble assez serein malgré tout sur l'idée de se passer de ces deux joueurs cadres pour ce premier match au moins, au cas où, ce sera encore trop juste.
Oui, c'est intéressant et forcément ça nous donne des indices avec cette première composition probable évidemment de Didier Deschamps. Merci beaucoup Loïc Braillet, tu restes avec nous si jamais il y a besoin d'apporter quelques nuances et des informations dans ce débat. Leur cas peut-il devenir un boulet ? C'est notre question. Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. J'ai un nom, c'est Marion Bartoli. Marion, donc tu commences.
Mais non, pas du tout, parce qu'effectivement, d'abord, la Coupe du Monde, c'est une compétition extrêmement longue. Donc, sur le premier match, qui est des incertitudes ou encore des incertitudes, ça, je veux bien le concevoir. Mais il y a largement de quoi remplacer Benzema et Varane sur une équipe comme l'Australie. Alors, sans vouloir porter offense à l'Australie, c'est quand même pas le Brésil en face. Donc, l'équipe de France a pas mal de marge. Giroud est très en forme avec le Milan AC, Konaté ou Upamecano. Je trouve pas ça totalement nul comme charnière. C'est moins qu'on puisse dire. Upamecano est titulaire au Bayern, pardon. Alors, même si en équipe de France, ses performances n'ont pas été pour l'instant encore à la hauteur de ce qu'il est capable de faire au Bayern, je pense qu'il peut largement remplacer Varane. Et c'est une compétition extrêmement longue. Et moi, je vais vous prendre le cas de Verratti. Le cas de Verratti sur le dernier Euro, il est blessé pendant 6 semaines auparavant. Il ne joue pas les 2 premiers matchs. C'était contre la Suisse et la Turquie. Donc, c'était loin d'être des premiers matchs faciles. Et l'Italie a pris le risque. Il est rentré en cours de compétition. Il a été titulaire jusqu'à la fin de la compétition. Il a fait des énormes matchs. Et on connaît le résultat final où l'Italie a remporté l'Euro. Donc, pour moi, sur une compétition aussi longue avec des joueurs qui ont quand même une expérience énorme, faut pas oublier que Varane, depuis le début de la saison à United, c'est vraiment une grosse satisfaction. Il a fait une des meilleurs débuts de saison. Il est quasiment revenu à son meilleur niveau. Sa blessure est arrivée finalement fin octobre. Il a commencé à reprendre les courses dès début novembre. Donc, même s'il est pas totalement prêt pour le premier match, moi, je le sens largement capable d'intégrer les dernières phases de poule et après la phase finale. Donc, pour moi, en aucun cas, ce sont des boulets. Ce serait des boulets si on était arrivé avec des joueurs dans l'incapacité totale de faire aucun match sur toute la compétition.
Okay.
Et je pense vraiment pas que ça soit le cas. Après, je me tourne vers Renaud qui a certainement plus l'habitude de la préparation physique et donc de, pour l'instant, certainement ce que fait Cyril Moine pour une certaine montée en puissance, en sachant que Benzema a des efforts à faire qui vont certainement être plus importants que celui de Varane où il peut se placer en défense à 4. Quand t'es attaquant de pointe, il faut faire des courses à haute intensité plus répétées. Donc, pour moi, en aucun cas, ce sont des problèmes. Au contraire, c'est des joueurs de classe mondiale qu'on pourra largement intégrer dans l'équipe au fur et à mesure de la compétition.
Ok, parfait. Olivier Giraud et Renaud, tu pourras répondre évidemment à Marion. Pourquoi c'est un problème ?
Bah, c'est un problème parce que j'entends ce que tu dis, Marion, sur le cas individuel, le fait qu'on peut les remplacer. Moi, je pars du principe que le sport collectif, ça ne se calcule pas comme ça. Et quand tu composes ton équipe, on sait que le premier match, c'est le match le plus important. C'est pas seulement le match le plus important parce que tu dois le gagner, mais c'est le match où, en fait, quand tu arrives, tu dois savoir quelle équipe tu vas mettre en place. Parce qu'en fait, mentalement, les joueurs, quand ils commencent une compétition, tu dois gérer les égos et savoir qui va être l'équipe titulaire. Tu dois connaître les statuts. Chacun doit connaître sa place.
Même si Olivier,
je pense vraiment pas dans le foot. Mais
Je pense,
sur une composition, pas sur des noms.
Parce que pour le coup, historiquement, les Bleus, par exemple, en 2018, par rapport au premier match, il a mis le deuxième match avant de trouver vraiment son équipe des titulaires.
Bien sûr, ça tourne. C'est un effectif qui tourne.
Non, mais j'entends complètement. Ça dépend des joueurs aussi. Et là, ce sont deux pièces maîtresses dans son équipe, pas seulement sur le terrain, mais aussi sur le terrain, mais dans le vestiaire également. Et quand tu n'es pas sur le terrain, tu peux pas être le patron et tu peux pas faire monter ton équipe en puissance. La deuxième chose, c'est que tu dois mettre de l'harmonie, les égos, préparer les joueurs à leur rôle. Là, réellement, on part dans l'inconnu. On part dans l'inconnu et que je sais que certaines fois, on peut cacher des choses. Mais moi, je suis plutôt très, très inquiet. J'espère que je me trompe, mais je suis plutôt très, très inquiet parce que Benzema, pour moi, c'est le seul joueur, quand tu as un milieu défensif un petit peu inconnu, avec beaucoup de blessés, c'était le seul capable, avec Griezmann, de pouvoir garder ce ballon vers le haut. Et à un moment, quand tu es les meilleurs joueurs, c'est par rapport aux autres joueurs, t'as 15% en plus. C'est ce qui fait la différence. Et ces 15% aujourd'hui, ils ne les ont pas.
Mais t'as pas besoin de ça pour battre l'Australie.
Non, mais
Olivier, s'il te plaît, t'as vu qu'on joue en poule.
Mais je peux t'assurer que s'il y a une chose que je ne fais jamais en sport collectif, c'est me dire que l'Australie, c'est pas une bonne équipe. Parce que c'est les plus grosses catastrophes qui puissent arriver. C'est-à-dire que en plus, il faut hyper respecter. Et tu vas faire rentrer des joueurs qui, eux, n'ont jamais joué de compétition internationale. Et même s'ils sont bons en club, je t'assure, Marion.
Giroud a joué toute la dernière Coupe du Monde. En plus, il va être hyper revanchard parce qu'il n'a pas marqué sur la dernière.
Tu me parles d'un attaquant.
Je pense qu'il parlait de la défense, ouais, et notamment la charnière centrale.
Upamecano, il a joué en équipe de France. Il a 6 sélections.
Oui, mais de compétition.
Il n'a pas joué.
Compétition internationale, il disait, la Coupe du Monde. Je ne vais pas vous mettre d'accord là-dessus, mais les copains, mais on va écouter David.
La National League, c'est bien une compétition internationale, non ?
Et Renaud Longuèvre. Oui, exactement, Mario. David Douillet.
Non, moi je suis plus inquiet sur alors qu'il joue les premiers matchs ou pas, etc. C'est pas, je pense que les équipes sont, je vais qualifier ça de, même si Olivier a raison, faut pas jamais sous-estimer un adversaire, je vais qualifier ça de tour de chauffe. En revanche, un peu plus. J'aimerais connaître vraiment la, et c'est difficile d'avoir l'information, la nature des blessures. Et quand j'entends des blessures musculaires à la jambe gauche, j'entends par là plutôt des élongations ou des peut-être des micro-déchirures. Et ça m'inquiète un peu plus. C'est pour ça que ça peut devenir un boulet, toute cette affaire-là. Parce que quand on s'inscrit dans une Coupe du Monde, eh bien, on se donne. Et un garçon comme Benzema, il y va. Il a un mental. Il a un mental de gagneur, de champion. Et il va envoyer du lourd. Et quand on a ce type de blessure, en général, ça repète, ça recraque, ça se redéchire. Ça te tient tout le temps. Ça, ce truc-là, faut se mettre 4 semaines au repos, et Renaud, tu me diras ce que t'en penses. Et puis, ménager bien ton entraînement pour que ça se cicatrise bien et que ça se résout bien. Mais là, démarrer une Coupe du Monde avec ce type de moi, ça m'inquiète. Je suis pas serein. Et l'équipe a besoin d'une vraie locomotive. On l'a toujours vu. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Et que je considère que Benzema est la locomotive de cette équipe. Donc, si on l'a pas, ça peut être compliqué.
Renaud, tu peux répondre ou pas?
Juste Renaud, parce qu'on l'a pas encore entendu. Renaud, tu vas pouvoir. Tout le monde t'a convoqué là, les GG. Tout le monde veut savoir un point précis médical. Tu es le docteur Longuèvre. Dis-nous ce qui se passe avec Karim Benzema notamment. Et est-ce qu'on est en train de prendre un risque ou pas? Ou est-ce qu'on est en train aussi de nous faire un petit peu de flûte pour nous dire non, mais il sera prêt. En fait, il sera jamais prêt.
On ne sait pas, on ne sait jamais. Et dans ce que j'entends des arguments de Marion, c'est ce que tout le monde pense autour de cette table, c'est que on veut être optimiste. Bien sûr, c'est pas parce que on dit qu'on est inquiet et qu'on met des réserves qu'on n'a pas envie que ça fonctionne. Et on rêve de voir un Varane au top, un Benzema au top, qui mettent le feu.
Mais médicalement, est-ce que c'est possible?
Mais médicalement, très sincèrement, les deux cas sont différents. Et Marion l'a dit, c'est que déjà les postes sont différents, donc les sollicitations sur le terrain sont différents, mais surtout moi, ce qui m'inquiète, c'est que c'est les ischio-jambiers, c'est localisé sur les ischio-jambiers.
Pour Varane,
Benzema aussi. Et
c'est le quadriceps pour Benzema.
Ouais, alors c'est le quadri. T'es sûr de ça?
Oui, ouais. C'est le quadriceps. Quadri. Ouais,
autant pour moi. Mais dans les deux cas, c'est des pépins musculaires, et ce qui n'incite pas à la confiance côté Benzema, c'est que pour moi, dans le processus de reprise, on a d'abord, David l'a dit, la phase de repos pour laisser cicatriser. Après, on a une phase où on commence avec le kiné à faire du renforcement concentrique, excentrique. Après, il y a une phase de réathlétisation, de reprise. Et après, il faut retrouver le niveau. Ça suffit pas si vous voulez d'être apte à jouer au ballon comme ça, faire des taureaux. C'est pas ça. Le très très haut niveau, c'est pas ça. C'est répéter des sprints à très très haute intensité. Et quand on regarde les stats, les datas maintenant qu'on a sur les vitesses en kilomètres heure et la capacité à répéter ces sprints à très haute intensité, la Coupe du Monde, elle est tout en haut. C'est pas tu joues au CER en championnat de Ligue 1 où tu fais 60 minutes puis 75 minutes. C'est pas ça. C'est la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, il faut des joueurs à 100%.
Et Renaud, la date n'est pas bonne du tout, parce que vu que c'est en milieu de championnat, il n'y a pas la préparation qu'il y a d'habitude où tu peux partir à Tignes, prendre du temps pour soigner les mecs, pas de match amicaux. Donc en fait, ils partent dans l'inconnu pour la première fois.
Ils partent dans l'inconnu, mais juste, et après
deux cas sont pas du tout identiques pour moi. Encore une fois, au vu du début de saison de l'un et de l'autre.
Je suis d'accord, mais les ischio-jambiers, on l'a vu avec Presnel Kimpembe, si tu regardes bien les déclats après le dernier match de championnat, Kimpembe dit tout ça c'est que dans la tête, je suis prêt, je vais la tenir. Puis 3 jours après,
parce que t'as envie d'y aller,
les gars.
Toujours qu'on va y aller, qu'on va réussir.
La clé, elle est là, c'est que le staff, c'est très compliqué face à des Formule 1 du sport comme ça, de les arrêter, de leur dire, hey, mon gars, ça va pas le faire.
Ok, mais
c'est très dur.
Renaud, dans ce
cas-là, je vous rappelle que la compo de 2018 contre l'Australie, il y avait quand même Tolisso et Dembélé. On avait commencé avec Tolisso et Tolisso n'a pas fini le mondial. Et après ça, ils ont changé pour Matuidi et Giroud. Donc la première compo n'était même pas la même qu'après la deuxième, où après il a gardé son 11 de base.
Oui,
Didier.
Oui, exactement. C'est ce que je disais tout à l'heure.
Donc pour moi, encore une fois, quand tu vois les images de l'entraînement hier, avec déjà les changements de direction, les sauts, les impacts, les frappes de balles.
Oui, mais c'est pas
des matchs. Les deux joueurs. Oui, Jacques, d'accord. Mais Benzema est quand même gagné le ballon d'or, il a fait une saison monumentale l'année dernière. Enfin, il s'est touché un ballon. S'il est prêt physiquement, alors certes, je pense vraiment pas qu'il va commencer contre l'Australie. Je pense vraiment pas qu'il sera prêt pour le match pour l'Australie. Et même Varane, je mets un gros point d'interrogation. Mais pour moi, soit à partir du deuxième match de poule, soit au pire au troisième, ils seront prêts.
Ok, Loïc Braillet, en direct du Qatar de Doha, une précision à nous faire, Loïc.
Oui, juste en vous écoutant attentivement, tout ce que vous dites est très vrai par rapport aux sensations sur l'aspect musculaire. Juste une précision sur ce que disait Didier Deschamps au moment de sa liste. Il prendra dans son groupe pour l'Australie, alors quand je dis dans son groupe, évidemment, il n'y a plus les joueurs en tribune, hein, ça c'est fini, donc tout le monde sera sur la feuille de match, les 26 seront là, mais en tout cas... Son objectif et son critère, c'était que tous les joueurs soient à 100% pour le premier match face à l'Australie, dans le 11 de départ. Donc effectivement, même si Karim Benzema est, alors dans une moindre mesure, Raphaël Varane, parce qu'a priori, il est un petit peu plus en avance par rapport aux Madrilènes. Et même si Karim Benzema faisait tous les efforts du monde pour être au top sur les trois séances qui restent d'ici mardi, c'est, alors, je ne vais pas dire du miracle, mais c'est pas loin d'être à 100%. Ce qui ne veut pas dire que dans l'esprit Didier Deschamps, qui a quand même les deux prochains matchs à anticiper et à prévoir dans sa préparation, il pourra l'inclure effectivement dans un deuxième temps. Mais être à 100% pour respecter son critère de base, mardi pour Benzema, ça semble vraiment utopique.
Renaud, juste dernière question, est-ce que dans ces cas-là, il faut les préserver vraiment ou quand même les intégrer petit à petit et peut-être les faire jouer? C'est mardi soir le premier match. C'est quoi la solution pour Deschamps, sachant qu'il est aussi en contradiction médiatiquement?
Là, on met le doigt. Pourquoi c'est un problème? C'est que si tu leur dis, allez, là, je veux un test à l'entraînement, on fait 45 minutes à bloc, bah, tu te dis, waouh, et si ça craque, on est dans le drame. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut pousser le gars en lui disant, mon gars, là, si tu passes pas ce test-là, tu rentres pas sur le terrain? Ou est-ce qu'au contraire, il faut le garder un peu dans le coteau, en sous-intensité? Mais le problème, c'est que l'intensité, elle va monter au fil des matchs. C'est pour ça que tu peux dire, ouais, le temps, il joue pour nous. Mais non, il joue pas pour nous. Parce que si tu veux regagner du rythme, il faut. Non, c'est un sacré cercle vicieux, c'est un sacré problème.
Cercle vicieux.
Il mettra Giroud sur le premier match, surtout que Giroud a un record à aller chercher. Il est plus qu'à 2 buts du record Thierry Henry. Il avait pas marqué sur la dernière Coupe du Monde. Il mettra Giroud sur le premier match. Il est hyper revanchard. Il est hyper en forme sur le Milan AC. C'est sûr qu'il le mettra lui sur le premier match. Il mettra pas Benzema.
Toi qui as l'habitude.
Il a pas assez de temps.
Toi qui as l'habitude, David, on nous fait un petit peu de flûte aussi. C'est forcément de la communication, tout ce qui se passe autour de ces deux joueurs.
Non, je pense pas. Je pense pas parce qu'il n'y a pas d'intérêt à en faire. Les autres équipes vont pas être influencées par ça joue pas. Il est blessé, il est pas blessé, etc. Ils sont concentrés sur leur propre performance. Donc non, je crois pas. Je pense que tout ça c'est vrai et que voilà, il y a un vrai problème et ce problème, comme l'a dit Renaud, c'est un problème qui peut s'effilocher à l'image d'un muscle qui craque au fur et à mesure du temps où tu lui demandes un engagement. Il y aura un engagement fort. Ça va être compliqué pour ces deux-là, c'est sûr et certain.
Et toutes les informations sont à retrouver évidemment sur rmcsport.fr avec tous nos envoyés spéciaux déjà arrivés sur place à Doha. Merci beaucoup Loïc Braillet, on te retrouve un petit peu plus tard et tout au long du week-end évidemment sur RMC. Merci pour toutes ces dernières informations. On revient dans quelques instants, il est 9h30, vous écoutez RMC, la punchline des GG. On va passer au tennis, un sport que connaît bien, je crois, Marion Bartoli. C'est sur Rafael Nadal. Est-ce que ça sent la fin? Oui ou non? À tout de suite sur RMC.
RMC, les grandes gueules du sport, 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
9h34, de retour dans les grandes gueules du sport, votre émission le samedi, le dimanche de 9h à midi. Il sera largement question de la Coupe du Monde, évidemment, dans cette émission. On en reparle avec Cristiano Ronaldo à 10h. On parlera aussi de la phrase de la politisation du sport d'Emmanuel Macron, le président de la République, à 10h30. Et puis aussi les dernières informations avec un zapping spécial Coupe du Monde. Ce sera à 10h45. Dans 10 minutes. Restez avec nous, un zapping classique avec d'autres informations à vous donner, notamment l'affaire de la mascotte des Jeux Olympiques 2024 fabriquée en Chine. Voilà, vous me direz si ça vous intéresse ou non. Et Renaud Longuèvre, qui fait sa première avec nous aujourd'hui, tu as le droit évidemment de me dire je m'en fous, mais ça ce sera dans une dizaine de minutes. Toujours également avec Marion Bartoli, Olivier Giraud et David Douillet. Depuis sa blessure avant la demi-finale de Wimbledon, Rafael Nadal n'est que l'ombre de lui-même. Une sortie au premier tour de Cincinnati, une élimination en huitième de finale de l'US Open, une défaite au premier tour de Bercy et enfin deux revers synonymes d'élimination au Masters de Turin. 4 mois, loin de ses standards, Rafael Nadal. Après le Masters, c'est la punchline des GG.
RMC, la punchline GG.
Je ne pense pas avoir oublié comment jouer au tennis et comment être assez fort mentalement. J'ai juste besoin de récupérer ces sentiments positifs et toute cette confiance et cette mentalité forte dont j'ai besoin pour être au niveau où je veux être. Je ne sais pas si je vais atteindre à nouveau ce niveau, mais je n'ai aucun doute, je vais mourir pour cela.
Je vais mourir pour cela. La question, les GG. Raphaël Nadal, est-ce que ça commence à sentir la fin? Oui ou non, Olivier Giraud?
J'espère que non.
David Douillet?
Non.
Marion Bartoli?
Non.
Renaud Longuèvre?
Sur terre battue, non. Je me pose la question, si c'est pas de la terre battue, j'ai un petit doute dans ma tête.
Sur les autres surfaces, ok. Olivier Giraud, pourquoi non? Vous êtes tous en admiration, et vous avez bien raison, devant Raphaël Nadal, mais visiblement, vous êtes aussi un petit peu dans le déni, ou pas? Non, je me trompe, je vous provoque un peu, Olivier.
Ouais, un petit peu, et tu sais, je vais me fouetter tout seul, parce que je ne peux pas avoir je peux pas avoir ce discours que j'avais sur Roger Federer.
Mais je suis assez étonné de ta réponse, c'est pour ça que je te lance.
Mais... c'est quelqu'un qui est capable, toujours, qui a été assez lucide sur son état physique. Et sur sa capacité à revenir, il nous l'a prouvé à chaque fois. Ça veut dire qu'il y a encore 5 ans, je me souviens, quand je le voyais au Masters de Bercy, je disais c'était l'ombre de lui-même. Et c'était même il y a 6-7 ans. Et on pensait déjà que c'était la fin de Raphaël Nadal. Et à chaque fois, il nous a prouvé qu'il était capable de revenir. Mais c'était le discours tout à l'heure des joueurs qui dépassent 31, 32, 33 ans. Et ben, ce qui leur permet d'aller très très loin, c'est surtout de ne plus se blesser à partir de cet âge-là et d'avoir un état physique optimal. Parce que le moment où tu te blesses, tu ne reviens jamais, comme un élastique, tu ne reviens jamais totalement au niveau où tu étais avant la blessure. Et donc, j'y crois encore parce qu'il nous a toujours fait mentir. Et j'ose croire encore qu'il va nous faire mentir. Mais tu vois, la dernière phrase, « I gonna die for it », eh ben celle-là, elle ne me rassure pas du tout. Elle ne me rassure pas, cette dernière phrase. Et que on sent que, ouais, on va pas être loin de la fin. C'est peut-être la dernière fois qu'on le revoit s'il n'est pas capable de revenir à son meilleur niveau. Et là, j'ai un doute cette fois-ci.
Ok, tu as un doute cette fois-ci. Ta lecture, David?
Moi, je suis dans le déni total, j'avoue.
C'est bien de l'admettre.
C'est clair. J'ai pas envie de le voir arrêter parce que moi, il m'a toujours impressionné. Enfin, je vais pas faire la litanie de toutes ses qualités, mais enfin, c'est un très grand champion. Et puis on a eu la chance de l'avoir comme Federer, comme Djoko, et on a vécu là une génération tennistique qui est hors du commun, que je mettrais au même niveau de Connors, Wilander, Lendl, etc.
Tu parles vachement au passé, non, mais... David, hein.
Non, mais, je sais, écoute, c'est notre lot à tous, mon cher ami. Je veux pas rappeler ton âge à l'antenne parce que, enfin bref, peu importe, c'est pas important. Bref, en tout cas, voilà, j'ai pas envie de le voir arrêter parce que j'aime ce joueur, j'aime le voir jouer. Il y va, il lâche rien. Il y a un petit fil qui dépasse, il le prend, il le développe et il arrache tout. Enfin, voilà, j'aime ce caractère-là. Il y a l'âge, il y a le corps, il y a la blessure, il y a les premiers signes de vieillesse, c'est clair. Mais je pense que mentalement, il va peut-être, s'il trouve une solution médicale, il va peut-être passer au-dessus de ce nouveau défi pour lui, parce que le mental, il l'a, quoi. Il l'aura toute sa vie, évidemment, et j'espère qu'on le reverra en grande forme pour une belle grande saison. Peut-être la dernière, mais une belle grande saison.
J'ai une autre phrase à vous lire, et comme ça, Marion, tu pourras rebondir, toi qui connais personnellement Raphaël Nadal. Pour moi, les doutes, comme je l'ai dit de nombreuses fois, sont très bons dans ce monde. Les personnes qui n'ont pas de doutes sont probablement très arrogantes, de mon point de vue. Mais si vous n'êtes pas positif, il est impossible que les choses aillent dans le bon sens. C'est ma philosophie. Que va-t-il se passer en Australie? Je ne sais pas, mais je vais essayer d'être humble pour relever ce défi. Tu le sens en confiance ou pas du tout, Marion?
C'est pas un joueur qui, Raphaël Nadal, qui fonctionne à la confiance, entre guillemets, à la méthode Coé, de se dire je vais être en confiance. C'est quelqu'un qui a besoin de se rassurer sur le terrain, qui a besoin de jouer énormément à l'entraînement et de se rassurer à l'entraînement, de se rassurer sur les premiers matchs sur un tournoi du Grand Chelem pour après lancer la machine. Moi, je suis toujours frappée quand je vais l'interviewer à Roland Garros sur les premiers tours. Il a pas du tout le même visage que sur la fin du tournoi. Ce qui est quand même plutôt fou, parce que sur la fin du tournoi, on va dire que c'est les matchs à beaucoup plus d'enjeux et là où il aurait beaucoup moins de marge. Et en fait, il est tellement rassuré par la première semaine qu'il a fait à Roland Garros que finalement, il a beaucoup moins de stress sur la fin du tournoi qu'en début. Au début, il est vraiment, quand il rentre sur un Roland-Garros, alors que je vous rappelle, il a quand même gagné ce tournoi 14 fois, je sais même pas si on arrive à se rendre compte ce que ça représente de gagner 14 fois Roland-Garros, enfin, c'est juste monumental. Et quand j'interview sur les terrains depuis, je crois, 2016, quand je rentre sur la première semaine, sur le premier tour ou le deuxième tour, il est vraiment quasiment, oui, soulagé d'avoir gagné, alors que tous les analystes tennistiques de l'extérieur vont dire, bah, Rafael Nadal sur les premiers tours de Roland Garros, il a une marge, mais qui est colossale. Et lui, au plus profond de lui-même, c'est vraiment pas ce qu'il pense. Et c'est pas un discours fin quand il dit, ça va être un match difficile, ça va être compliqué, il faut que je fasse attention. Il le pense vraiment. Et c'est finalement se rassurant par les matchs et par des gros entraînements qu'après, il finit par prendre confiance. Et là, le problème, c'est que, entre la fin de grossesse très difficile vraiment qu'a eu son épouse, bien sûr, l'arrivée d'un enfant qui est un chamboulement dans une vie qui est énorme, surtout quand la fin de la grossesse se passe mal, il y a forcément, on a beaucoup moins la tête au tennis et c'est totalement normal. Je pense que entre ça et le fait que dû à sa blessure, bien sûr, il a pu faire moins de volume, il est arrivé sur cette fin de saison déjà, et comme l'a rappelé à très juste titre Olivier, c'était pas les fins de saison sur dur en indoor qui étaient ses meilleures fins de saison, parce qu'il arrive toujours rincé, parce qu'il met énormément d'énergie, surtout cette année pour remporter encore une fois deux tons à du Grand Chelem, l'Open d'Australie qui gagne contre Medvedev en étant mené 2-7-0 et break au troisième. C'est un exploit sportif absolument colossal, plus énergie qu'il met à Roland Garros, il arrive rincé. Vous ajoutez à ça la naissance de son fils et une blessure, bah bien évidemment ça va être compliqué pour lui de finir la saison correctement, mais moi j'ai aucun doute qu'il va arriver à repartir. Alors pour combien de temps, bien sûr qu'on est plus sur la fin qu'au début, c'est évident dû à son âge, au nombre d'années cumulées, mais je suis persuadée qu'il sera compétitif encore l'année prochaine, je suis persuadée qu'il arrivera comme favori à Roland-Garros et je suis persuadée qu'il fera encore des grands matchs.
J'ai Anthony sur le 32-16, le direct studio, qui me dit, moi je veux pas voir Rafa prendre une volée à Roland-Garros, je préférerais qu'il arrête maintenant, même s'il me fait encore vibrer devant un match de tennis. Renaud Longuèvre.
Moi non plus, j'ai pas envie de le voir prendre une branlée. On a tous une estime énorme pour ce champion, mais voilà, moi je pense quand même que c'est plus, si je peux oser une comparaison, c'est plus le David Douillet des Jeux de Sydney que le David Douillet des Jeux de Barcelone ou des Jeux d'Atlanta. Hein, David.
Le David de Sydney, il gagne. Quand même.
Non, mais bien sûr. Oui. Mais voilà. Mais ouais, c'est pour ça que moi je pense quand même que la période qui arrive va lui être favorable, parce qu'il a besoin là de se reconstruire, il a besoin de rebosser physiquement, d'arrêter de calmer un petit peu au niveau. C'est toujours là que ça se joue, être bon en Australie, ça se joue, Marion, je crois, sur la
en pré-saison, bien sûr.
Ouais, sur la pré-saison, c'est très rare bien pour sûr. Un joueur de tennis d'avoir du temps devant soi pour essayer de refaire les bases, de sans pression, sans rien. Donc la clé là, c'est les 6 semaines qui viennent. Mais évidemment, j'ai envie de croire à un retour au très très haut niveau. Par contre, je pense que dominer toute une saison, je crois que c'est fini. Voilà, faut
pourtant,
pas...
il a fait 6 premiers mois absolument magnifiques. On se disait, est-ce qu'il va réussir à tenir le rythme
et... Non, mais maintenant, il va choisir ses événements, mais comme le fait déjà Novak Djokovic. Hein. Oui. Pour étayer mes propos au niveau de la forme, même Novak, qui lui n'avait pas de blessure, mais parce qu'il lui est arrivé sur le plan psychologique et ce qu'il a subi en Australie, où ça a été difficile pour lui de se relever à la fois psychologiquement et en termes aussi, bien évidemment, de temps de jeu. Faut pas oublier qu'au début d'année, à Dubaï, il perd sur Jiří Vízelý. Je pense que personne autour de cette table ne connaît ce joueur. Et là, il va certainement, enfin, en tout cas, il a gagné ses 3 matchs de poule, sur le Masters. Il arrive comme immense favori pour aller gagner le Masters sur la fin d'année. Donc, des joueurs comme ça, même avec toute l'expérience qu'ils ont, ils ont besoin de volume de jeu, ils ont besoin de match. Et ouais. Rafa, ce qui lui a manqué un petit peu sur la fin de la saison, c'est à la fois ce volume de jeu en entraînement et bien évidemment le nombre de matchs aussi.
Le mot de la fin, Olivier.
Le mot de la fin, c'est qu'on va parler de beaucoup de très grandes stars dans beaucoup de sports qui ont tout gagné et qui arrivent à un certain âge. Et Renaud, tu le sais, à un moment, la tête, elle peut bien aller, vouloir toujours conquérir les choses, mais le corps, quand il va décider d'éteindre la lumière, ça, tu ne le sais pas.
On espère qu'il s'éteindra le plus tard possible, en tout cas pour Rafael Nadal. Et j'ai bien compris, vous étiez totalement dans le déni ce matin. Et je vous aime aussi pour ça, mais surtout les débats, faudra pas être dans le déni. Ok, je l'accepte pour Rafael Nadal, mais attention, on va parler notamment Cristiano Ronaldo à partir de 10h. 9h45, on se retrouve dans quelques instants, la suite des grandes gueules du sport. Le zapping des GG. J'ai les mascottes qui font polémique, les mascottes de Paris 2024 notamment, ou encore le Portugal, mais en rugby, qualifié pour la Coupe du Monde. En France, en 2023. On s'en fout pas, à tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h49, de retour dans les grandes gueules du sport, toujours avec David Douillet, Marion Bartoli, Renaud Longuèvre, c'est sa première, Olivier Giraud, à partir de 10h. Nous allons parler de Cristiano Ronaldo et de cette interview au lance-flamme. La star portugaise vient-elle de se faire harakiri? Ce sera notre question. Mais tout de suite, on s'en fout pas.
RMC.
Le zapping des grandes gueules du sport.
Alors, plusieurs informations à vous donner. Je le précise évidemment, la règle du jeu pour Renaud Longuèvre, car je le disais, c'est sa première. L'actualité de la semaine, de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. Et attention, Renaud, si tu me dis je m'en fous, tu n'as pas le droit à la parole. Si tu interviens.
Et on sera strict.
Si tu interviens alors que tu m'as dit je m'en fous, mais alors là.
Attention.
Parfois, stratégiquement.
Tu te rends pas compte.
Parfois, stratégiquement, c'est mieux de dire oui, bon, je m'en fous pas. Comme ça, au cas où, si quelqu'un sort une saucisse, tu peux l'attaquer.
Mais... Et c'est Marion la police ou quoi?
Alors.
Presque.
Marion fait aussi la police. Ouais. Et parce que je l'ai nommé.
Oui, parce que mon frère est gendarme, tu vois.
Policier en chef. Donc, puis moi, j'ai pas beaucoup de courage, donc je préfère m'appuyer sur les grandes. La première information dans le zapping des GG à vous donner, c'est les filles du hand, notre équipe de France éliminée en demi-finale de l'Euro. On s'en fout pas. Marion Bartoli.
Ok,
très bien.
Non, je m'en fous pas. Allez, je m'en fous pas. Je vais écouter Olivier. Non, je vais écouter Olivier.
C'est facile, ça. David Douillet.
Ouais, je m'en fous pas.
Ok, Renaud Longuèvre.
Bah non, je m'en fous pas.
Ok, Olivier Giraud.
Ce serait drôle, hein, mais non.
Ah ouais, ça reste beaucoup, ouais.
J'ai espéré à un moment donné que tu me dises on s'en fout. Invaincu depuis le début de l'Euro, l'équipe de France féminine de hand est donc tombée ce vendredi en s'inclinant face à son bourreau, on peut le dire, hein, sa bête noire, la Norvège, 28-20. Les championnes olympiques tenteront tout de même d'arracher le bronze face au Monténégro. Ce sera dimanche à suivre sur RMC. On écoute le sélectionneur, Olivier Cromwell.
Première mi-temps intéressante et puis derrière on déraille complètement. Ça les met en confiance, ils ont été beaucoup plus précis tactiquement que nous. Aujourd'hui ils étaient beaucoup plus forts, il faut retrouver de la qualité pour jouer dimanche. On va faire tout ce qu'il faut, on va faire la vidéo, on va faire l'analyse de notre échec tous ensemble avec humilité et repartir dimanche pour aller chercher une belle médaille de bronze.
Bon, m'en voulez pas les GG, on va évidemment donner la parole à Olivier pour intervenir sur ce sujet car j'ai beaucoup de choses à vous dire dans ce zapping. Olivier sur l'équipe de France.
Eh ben, on parlait de commencer une compétition, bien la commencer, mais c'est surtout quand tu vas dans une compétition pour la gagner. Et pour aller gagner une compétition, on parlait d'un effectif complet, et là il manquait beaucoup de joueuses importantes, donc on pouvait aller gagner les poules, mais le moment important, il faut vraiment avoir une équipe au complet, et là il manquait une gardienne de but. Colette Pardarleux a été fantastique, mais il n'y avait pas la doublure derrière, Laura Gloser qui s'est blessée, Méline Nocandi du Paris 92 qui est l'une des meilleures joueuses actuellement, limite meilleure joueuse mondiale, Manon Wett, voilà, c'est des ingrédients qui font qu'à un moment tu n'as pas la solution de rechange si ça ne fonctionne pas. Et quand il y a eu les pertes de balles et que les filles ont perdu, les titulaires ont perdu un petit peu le fil du match, et ben quand t'es coach, tu te tournes, tu te dis qui va aller sur la meilleure équipe, le meilleur ennemi de l'équipe de France, la Norvège. Et ben ça a été difficile de trouver, et les filles elles ont craqué tout simplement, et voilà, il manquait ce petit truc pour aller battre les meilleurs, et quand tu rencontres les deux meilleures équipes, c'était la Norvège qui était la plus complète hier.
Allez, deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est l'affaire de la mascotte des Jeux Olympiques Paris 2024 fabriquée en Chine. On s'en fout pas. Renaud Longuèvre.
Je m'en fous, mais complètement.
Ok, Marion Bartoli.
Pareil.
Ok, David Douillet.
Je m'en fous pas.
Ok, et Olivier Giraud.
Je m'en fous pas.
Lundi, le comité d'organisation a donc dévoilé les mascottes qui vont incarner les Jeux Olympiques de Paris 2024. Un bonnet phrygien transformé en petit personnage, c'est Fridge, forme une tribu et veulent symboliser l'esprit de liberté de la France. Et à peine dévoilé, déjà une polémique autour de ces mascottes qui seront fabriquées en Chine pour la quasi-totalité. Au total, 8% des peluches devraient être fabriquées en France. Mardi, au micro de France Info, Christophe Béchu, le président de la transition écologique, a regretté ce choix. Et jeudi, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a déclaré « Le constat, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire autrement. » David Douillet.
Moi, je suis... on a un autre sujet, je crois, dans les GG qui explique, enfin, qui va poser la question, est-ce qu'on fait de la politique dans le monde du sport, etc. Mais le sport nous amène à prendre ça en pleine face, voilà. Et c'est très bien pour le coup, parce que j'espère que ça va créer un électrochoc de folie. En réalité, ça fait 50 ans que nos politiques, au sens large, quels que soient les bords, désindustrialisent notre pays avec une fiscalité qui est dingue sur le travail, sur le coût du travail. Donc si tout ça, tous ces savoir-faire sont partis en Chine ou ailleurs, c'est bel et bien parce que voilà, on n'est pas compétitif. Et aujourd'hui, on a les jeux, on a une mascotte à fabriquer, bah on n'est pas capable de la faire parce qu'on n'a peut-être pas les, on n'a peut-être plus les, le savoir-faire, c'est une chose, mais aussi en termes de coûts, et c'en est une autre. Et ça, c'est la réalité économique du monde. Donc tout le monde s'émeut. Oh, notre mascotte, on va la faire fabriquer en Chine. Ouais, mais les copains, c'est la réalité des Français de tous les jours qui sont obligés d'acheter des maillots, des articles, des objets. Qui viennent du monde entier parce que en France, ils coûtent trop cher à fabriquer. Donc voilà, messieurs, dames, qui êtes aux manettes aujourd'hui, réveillez-vous, réindustrialisez la France. Si les jeux peuvent servir à ça, c'est formidable.
Ok, 10 secondes là-dessus, Olivier.
On vient de découvrir que tout est fabriqué en Chine. Je vais dire à tous les gens qui sont en train de pester, je leur dis à Noël, faites très attention, il ne va pas rester beaucoup de cadeaux.
C'est clair.
Et si vous achetez une peluche, quelle qu'elle soit, vous avez grande chance qu'elle soit fabriquée en Chine. Je voudrais juste vous faire.
Jean-Christophe, juste pour terminer, faut arrêter d'en mettre des louches parce que on voit où ça va les tirs. Hein, là, pour le coup, on va encore en mettre une louche sur Tony Estanguet, sur le Cojo. On va encore en mettre une louche sur le ministère, etc., etc. Non, le problème il vient pas de là. Voilà, c'est eux, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont et puis c'est comme ça.
Juste vous faire écouter quelque chose parce que le Portugal s'est qualifié pour la Coupe du Monde de rugby 2023 avec un match nul face aux États-Unis, 16 partout. Il reste quelques secondes à jouer. Le Portugal, s'il y a cette pénalité transformée, le Portugal égalise et va en France pour la Coupe du Monde 2023. C'est savoureux.
Marks for Portugal. They've done it.
Le coup de pied de la dernière seconde. Ils seront dans la poule C. Les Portugais avec le Pays de Galles, l'Australie, les Fidji et la Géorgie. Voilà, c'est la deuxième fois que les Portugais arrivent à se qualifier pour la Coupe du Monde de rugby. Voilà, c'était juste un petit bonbon comme ça à vous faire partager. 9h56, on se retrouve dans quelques instants. La punchline des GG, c'était à 9h30, pas du tout. Ce sont les mauvaises fiches. Mais qui mélange mes fiches? Incroyable. Cristiano Ronaldo vient-il de se faire harakiri?
Vous allez écouter cri d'amour.
Les meilleurs extraits, vous allez vous régaler. A tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.